Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, le journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1.
Il faudra que les personnels se fassent vacciner. Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement.
Le gouvernement en appelle à la responsabilité des soignants et leur demande de se faire vacciner contre le Covid. Un tiers d'entre eux seulement a reçu une injection. C'est une première. L'Italie bloque une cargaison de doses du vaccin AstraZeneca qui devait partir pour l'Australie. Dans ce journal, le président des Restos du Cœur compte sur vous. La collecte d'été démarre aujourd'hui. Et puis le prince Eddie Murphy, de retour à New York, plus de 30 ans après le premier opus. La suite sort aujourd'hui sur Amazon Prime Video.
Et justement, mon invité inattendu sera tout à l'heure une voix. Il est le point commun, justement, entre Eddie Murphy et le crabe Sébastien de la Petite Sirène, leur voix française. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme un dernier avertissement avant l'obligation. Hier soir, le Premier ministre Jean Castex a appelé solennellement l'ensemble du personnel soignant à se faire vacciner contre le Covid. Ils sont encore trop peu à avoir reçu une première dose, déplore-t-il. Avis partagé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était à ses côtés. Il en va, selon lui, de leur responsabilité.
Ma conviction profonde, c'est que l'adhésion des soignants à la vaccination va augmenter. Le temps de la réticence est derrière nous. Il y a pu y avoir des doutes. Est-ce que tel vaccin est plus adapté que l'autre? Est-ce que les effets indésirables de tel vaccin justifient qu'on se vaccine? Oui, bien sûr que ça justifie qu'on se vaccine. Se protéger soi-même et protéger les autres. Je crois profondément qu'on va améliorer tout ça. Je vais écrire aux médecins, je vais écrire aux infirmières, je vais écrire aux sages-femmes, je vais écrire aux kinés, à tout le monde, une lettre pour dire tout ce que la nation leur doit depuis plus d'un an, du combat qu'ils mènent partout dans les hôpitaux et en ville. Et je vais leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Et je leur demande de se faire vacciner. Je pense que ce sera suffisant. Mais si ça ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondée, comme il a déjà pu le faire sur des vaccinations, qu'elles soient obligatoires ou non, à nous dire s'il faut aller au-delà.
Le gouvernement qui a également confirmé que le Pas-de-Calais se reconfinait ce week-end. Par ailleurs, 135 000 nouvelles doses de vaccins vont être distribuées au département placé sous surveillance renforcée.
Pas de distribution de vaccins en Australie. En revanche, l'Italie s'oppose à l'exportation de 250 000 doses du sérum AstraZeneca.
Et c'est la première fois que les Européens montrent les dents et dégainent l'arme du contrôle des exportations des vaccins, Isabelle Horry.
Oui, et c'est tout sauf un hasard si c'est contre AstraZeneca. Le géant anglo-suédois met les nerfs des 27 à vif parce qu'il ne tient pas ses engagements. Il devait leur livrer plus de 100 millions de doses au premier trimestre. Ça sera seulement 40 et les explications des dirigeants de l'entreprise n'ont pas du tout convaincu. L'Italie a donc décidé de passer aux actes et de bloquer des doses mises en bouteille dans une usine proche de Rome. Une décision que le nouveau Premier ministre Mario Draghi a pris en accord avec la Commission européenne et en tenant ses partenaires, dont la France, au courant. Si nous n'avions pas agi, tout le monde aurait pensé que l'Europe n'a pas de dents, justifie une source européenne. Bruxelles se défend de tentations protectionnistes. Depuis janvier, plus de 170 demandes d'exportation déposées par Pfizer ont, elles, été validées. Nous n'avons pas l'intention de nous en prendre aux entreprises qui, elles, respectent leurs engagements, explique un diplomate. La décision contre AstraZeneca tombe en tout cas à pic. Elle ôte un peu de pression sur les épaules des dirigeants européens, critiqués pour la lenteur de la vaccination sur le continent.
Les précisions d'Isabelle Horry à Bruxelles et nous serons tout à l'heure en Italie dans notre revue de presse internationale.
Et dans l'actualité aussi, Jean Castex et Gérald Darmanin sont attendus à Beauvais dans l'Oise aujourd'hui pour parler sécurité et renfort de police. En début de semaine, 3 policiers ont été blessés dans des affrontements avec des jeunes sur fond de lutte contre le trafic de drogue.
On en vient à l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Petit qui va démarrer dans quelques jours en France. Hier, l'Agence nationale du médicament a donné son feu vert.
Pour certains patients, c'est parfois la seule solution pour soulager leurs douleurs. 3000 volontaires vont être recrutés pour cette phase de test. À 53 ans, Valérie Giscard s'est portée candidate. Atteinte de leucémie et d'une algie vasculaire de la face, jusqu'à présent, seul son mental lui permet de lutter.
En fait, j'ai appris à rehausser le seuil de la douleur. Puisque je suis allergique aux morphiniques, aux opiacés, je suis intolérante XXL à la codéine, donc finalement il commence à plus rester grand chose. Mais il arrive à un moment donné où on a beau avoir un mental, je suis à un moment donné fatiguée, je suis fatiguée de souffrir et il faut bien trouver des solutions. Alors ça peut faire peur parce que quand on entend cannabis, on n'a pas toutes les informations au jour d'aujourd'hui, mais vraiment... Si je vais fumer mon petit joint tranquille avec ma petite plantation à la maison, je risque de me faire plus mal. Donc j'essaye d'être intelligente et de pas détraquer tout ça. L'intérêt, c'est d'être suivie par un médecin, par une équipe pluridisciplinaire de la douleur et qui puisse m'accompagner sur la prise de ce cannabis thérapeutique. Maintenant, j'attends pas non plus un remède miracle, il faut pas non plus... Mais si un patient sur 15 est déjà soulagé, c'est déjà gagné.
Un témoignage recueilli par Anne Le Gall.
On en reparlera donc avec mon invité tout à l'heure à 6h40. Il est 6h06 sur Europe 1 à Toulouse, un ripoux du fisc devant la justice aujourd'hui.
Un ancien responsable des impôts et son épouse comparaissent pour corruption et prise illégale d'intérêt. Alors qu'ils étaient encore en fonction, ils auraient délibérément prévenu des amis que leur entreprise allait faire l'objet d'un contrôle fiscal. Benjamin Péter.
Ils ne s'attendaient pas à ça. Qu'en fin 2018, ils enquêtent sur une fraude massive de plusieurs restaurants du centre-ville, les inspecteurs des impôts ont la surprise de tomber sur des échanges de mails et de textos entre un restaurateur et leur propre patron, Marc Mainviel, le directeur départemental adjoint du pôle fiscal. Le ton est amical, on se tutoie, au point qu'ils soupçonnent leur supérieur et son épouse, elle aussi haut fonctionnaire des impôts, et qui avaient leurs habitudes dans cet établissement, d'avoir prévenu le chef d'entreprise de l'imminence d'un contrôle. Mais pour l'avocat du couple, maître Laurent Boguet, rien ne permet de l'affirmer.
Ils n'ont jamais fourni le moindre renseignement sur le calendrier de la procédure fiscale qui a été menée à l'encontre de ce restaurateur. Il appartiendra à la justice d'établir si un administrateur des finances publiques, qui éprouve comme tout à chacun le besoin d'aller se restaurer tous les midis, parfois en compagnie de son épouse, a la possibilité ou pas d'entretenir des relations d'estime et non pas des relations amicales avec le restaurateur en question.
L'enquête va révéler qu'ils auraient également avantagé un ami expert comptable lors d'un contrôle fiscal. La défense, elle, dénonce une enquête à charge et va demander dès le début de l'audience tout à l'heure l'ouverture d'une information judiciaire. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la collecte d'été des Restos du Cœur. En pleine pandémie, les besoins sont de plus en plus importants.
Il y a eu une hausse des inscriptions à l'aide alimentaire de 15% cette année. Plus de 2 millions de personnes en bénéficient et plus de la moitié d'entre eux affirment y avoir recours depuis moins d'un an. Patrick Douré est le président des Restos du Cœur.
C'est important pour nous, c'est vraiment crucial cette année d'avoir une collecte qui se passe bien, qui soit extrêmement généreuse. Cette année, c'est très très important effectivement que cette collecte soit une réussite pour toutes les personnes accueillies qui sont déjà chez nous. Et puis malheureusement, on peut le craindre, toutes les personnes qui vont devoir venir frapper à notre porte dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Le président des Restos du Cœur avec Yasmina Katou. La collecte se déroule pendant tout le week-end jusqu'à dimanche et ce soir, c'est le traditionnel spectacle des Enfoirés sans public pour la première fois depuis sa création.
Autre événement caritatif, c'est dimanche aussi dans un format peut-être moins classique que les restos.
Oui, vous vous rappelez du The Event en octobre dernier, une sorte de téléthon du jeu vidéo qui avait rapporté près de 6 millions d'euros à Amnesty International. Et dimanche, ce sera Speedon, un marathon de speedrun, comprenez-la, finir un jeu ou un niveau le plus vite possible. Et cette fois, ce sera au profit de Médecins du Monde. Décidément, Clément Le Saffre, le jeu vidéo représente un nouveau filon pour les associations.
Oui, à tel point que c'est Médecins du Monde qui est à l'initiative de Speedon. Impressionné par la solidarité de la communauté du jeu vidéo lors du The Event, l'ONG a décidé de monter son propre événement caritatif. Jean-Baptiste Matret est le directeur du développement de Médecins du Monde.
On s'est dit qu'effectivement, le marché des streamers permettait de toucher des jeunes. Une cible qu'on sait engager, mais qu'on ne touche pas dans nos communications et dans nos appels à dons. Sur les dons ponctuels, nos donateurs sont plutôt âgés et il est important de les rajeunir.
Médecins du Monde a donc donné carte blanche à Mister MV, suivi par 600 000 personnes sur Twitch. C'est sur cette plateforme prisée par les gamers que 50 000 streamers vont se succéder pour terminer le plus vite possible des jeux vidéo pendant que Mister MV et ses acolytes inciteront les spectateurs à faire des dons.
Les gens pourront donner tout du long, influer un peu sur le parcours du marathon avec des défis spéciaux à lancer aux joueurs. Par exemple, si on atteint 1 000 euros après la partie de Pokémon, eh ben, on passe 10 minutes à montrer les bugs les plus improbables du jeu, etc. etc.
Médecins du Monde espère récolter au moins 100 000 euros lors du Speedon. En cas de succès, l'événement reviendra l'année prochaine avec, si possible, du public.
Eh ben on va suivre ça. Merci beaucoup Clément Le Saffre.
Allez, on termine avec un film pour le week-end. Eddie Murphy est de retour dans Un prince à New York numéro 2, 33 ans après le premier qui avait cartonné. Alors évidemment, c'est pas au cinéma, c'est disponible aujourd'hui sur la plateforme Amazon Prime.
Et Marjorie Adelson l'a regardé pour Europe 1 et je parie que vous n'allez pas reconnaître la voix française d'Eddie Murphy.
Préparez le jet royal. Repartons en Amérique.
C'est hors de question, votre majesté. Come on !
Le prince du Zamunda est de retour dans le Queens. Et ce n'est plus la femme parfaite qu'il recherche, mais son fils illégitime. Entre-temps, il est devenu roi et papa de 3 jolies filles. Le problème, c'est qu'au Zamunda, les femmes ne peuvent pas régner.
Les filles, j'aimerais vous présenter votre frère. Tinashe, je vous présente votre frère bâtard d'Amérique.
Le film produit en grande pompe par la Paramount devait initialement sortir en salle à Noël. On y retrouve les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du premier. Un royaume fictif décalé, un casting 100% noir et un humour made in Eddie Murphy.
Dans le climat actuel, un homme noir ne peut pas se prendre une raclée par un blanc. C'est les émeutes assurées. Les émeutes, c'est pas trop mon truc. Cela dit, tout ce que je veux, moi, c'est un écran plat.
Un film qui fera le bonheur des fans de la première heure, mais qui peine à se renouveler pour séduire un public plus large.
Eddie Murphy qui est de retour, donc un prince à New York numéro 2. Alors vous disiez, vous n'allez pas reconnaître la voix française parce qu'elle a changé, parce que la voix mythique d'Eddie Murphy, celui qui faisait sa voix française est décédé, et justement celui qui fait sa nouvelle voix et qui lui succède sera avec nous dans quelques minutes.
Ah bah parfait.
C'était le journal de Sophie Echen, il est 6h11.